Culture sans frontières. Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous. Si le terme de citoyen du monde est souvent galvaudé, on peut dire qu'il correspond pourtant plutôt bien à Katka Garcia. De mère tchèque, de père espagnol, avec des origines juives et russes, elle vit à l'heure actuelle en Irlande où elle enseigne l'espagnol. De cette combinaison de cultures, elle n'a pu faire qu'un atout. Katka Garcia, arrière-petite-fille du célèbre peintre Art Nouveau Alphonse Mucha, est également chanteuse. Après un premier groupe au nom gaélique de Duna Doras, elle se produit aujourd'hui avec son groupe Garcia. Au répertoire de Katka Garcia, des chants séfarades, des ballades irlandaises en anglais ou en gaélique, mais aussi quelques compositions propres. D'ailleurs, un nouvel album est en préparation qui devrait sortir à l'automne. Rencontre aujourd'hui avec Katka Garcia.
Mon père est le fils d'un officier de l'armée républicaine en Espagne pendant la guerre civile en Espagne. Après la guerre, mon grand-père était exilé à Moscou et il a fait la connaissance de ma grand-mère. Ils se sont mariés et après la guerre, ils sont venus à Prague. Ils se sont installés à Prague. Et mon père est né à Prague, il a grandi à Prague. Et après la mort de Franco en Espagne, sa famille, lui aussi, ont rentré en Espagne.
Alors, c'est assez original hein, parce que quand même, j'ai tendance à croire, en tout cas qu'en République tchèque, il y a moins comme ça de mélange aussi exotique. Bon, enfin, il y en a, hein, vous en êtes la preuve, mais il y en a peut-être moins, disons, que par exemple en France ou dans d'autres pays. Disons, voilà, c'est une combinaison de cultures assez originale. Alors, je vais quand même rappeler simplement que votre mère, Yarmila Mokhapotkova, les auditeurs de Radio Prague la connaissent. Radio Prague l'avait interviewée il y a quelques mois pour son exposition de bijoux, d'objets inspirés de l'œuvre de Alphonse Mucha. Alphonse Mucha qui est donc votre arrière-grand-père, donc qui était le grand-père de votre mère, hein, puisqu'elle est la fille de Jiří Mucha, l'écrivain.
Oui, c'est ça, c'est correct. Je me rappelle que dès mon enfance, il y avait toujours des affiches de Mucha. J'ai été consciente que l'art de Mucha a toujours fait partie de notre famille. Par exemple, quand je regarde un film au cinéma, voilà, et il y a un intérieur avec une affiche Mucha, c'est ça que me surprenne beaucoup.
Alors je disais en effet un mélange très exotique, voilà, vous êtes tchèque, espagnol, des origines russes également, et vous vivez à l'heure actuelle en Irlande, vous êtes prof. Alors simplement un petit peu pour poser le tableau, qu'est-ce que vous enseignez? Vous enseignez le tchèque?
J'enseigne l'espagnol parce que je suis hispaniste. Quand je suis allée en Irlande, j'ai trouvé un travail à Trinity College à Dublin, dans le département des études hispaniques.
Alors en plus, c'est parfait pour vous finalement parce que vous combinez beaucoup d'affinités pour votre propre création, puisque vous êtes chanteuse. Alors, vous avez un éventail très large d'intérêts puisque vous intéressez à la fois au chant séfarade, mais également au chant gaélique, irlandais. Justement, comment vous sont venues ces affinités?
Avec la musique irlandaise, ça vient un peu de famille parce que quand j'habitais à Barcelone, mon père avait des amis qui étaient écossais et irlandais. Et un jour, je me rappelle que j'étais à la maison et il a porté une cassette avec des chansons irlandaises et écossaises. Il m'a dit, oh, je pense que tu vas aimer ça. J'ai adoré les chansons dès le premier moment.
Et après, c'était des chansons traditionnelles?
Traditionnelles. Et après, quand nous sommes venus à Prague, j'avais cette cassette. Et pour moi, cette cassette symbolisait, je sais pas quoi, mon père, ma vie à Barcelone. J'ai écouté obsessivement la cassette. J'ai appris les chansons
Par cœur ?
Par cœur.
Sans comprendre le gaélique,
sans comprendre même l'anglais, parce qu'il y avait, des mots anglais que je cherchais dans le dictionnaire, et j'ai spéculé comment ça se peut écrire, comment je pouvais trouver le mot. Et après, la musique séfarade, c'est une question un peu différente, parce que dans mes études, j'étais très intéressée à la culture, surtout la langue des Juifs séfarades. Et pendant mes recherches pour ma thèse de maîtrise et après pour mon doctorat, j'ai trouvé plusieurs compositions et j'ai fait la connaissance de gens qui chantent les chansons séparadas. C'était plutôt un intérêt de recherche, mais maintenant ça fait part de mon propre répertoire, parce que j'aime beaucoup la langue et j'aime la culture. C'est une passion que j'ai.
Sa figlia l'ancien.
Alors rappelez-nous, ou rappelez plutôt aux auditeurs qui ne sauraient pas exactement en gros quelle époque ces chants séfarades.
Il y a plusieurs théories concernant la datation de ces chansons, mais on peut dire, je crois, que la langue de ces chansons, c'est essentiellement le castillan, le vieux castillan avec des influences turques, françaises. Il y a toute une série d'influences linguistiques. Mais la musique, certaines chansons sont dérivées des anciennes ballades castillan ou espagnoles. Il y a un groupe de chansons qui sont plus modernes, qui sont composées, je crois, les dernières décades du siècle 19 et les premières décades du siècle 20, grâce aux influences françaises, de la chanson française, italienne. Alors c'est tout un syncrétisme musical.
Ça veut dire donc que ces chants juifs, ces farades, en gros, s'étalent finalement depuis les temps, on va dire depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine façon, disons jusqu'au XXe siècle à coup sûr.
Oui, il y a des ballades dont on peut tracer les origines dans la tradition péninsulaire espagnole, andalouse, castillane.
Et est-ce qu'elle a été influencée, par exemple, justement, par la période musulmane orientale de l'Espagne?
Pendant les Juifs vivaient en Espagne, dans la péninsule ibérique, certainement il devait y avoir des influences parmi les Juifs, les musulmans et les chrétiens, culturellement et aussi dans la sphère de la musique. Quand les Juifs étaient expulsés de l'Espagne en 1492, il y avait des milliards d'émigrés qui se sont établis dans l'Empire ottoman. Et dans l'Empire ottoman, la musique turque, les instruments que les Ottomans utilisaient, ont influencé la musique des Juifs séfarades, la tradition musicale que les Juifs séfarades apportent avec eux d'Espagne.
Donc on disait que vous viviez à Dublin et que vous rentrez faire vos concerts ou chanter justement des chants gaéliques ou séfarades en République tchèque. Est-ce que vous chantez justement en gaélique quand vous êtes en Irlande? Et si oui, comment est-ce que réagissent les Irlandais?
La plupart des chansons que je chante sont en anglais, mais il y a des chansons qui sont en gaélique. Et en fait, avec mon groupe Garcia, ici à Prague, je chante en gaélique aussi. Ils sont très surpris parce que pas tous les Irlandais peuvent parler ou chanter en gaélique. Il y a peu de personnes qui sont compétentes en gaélique et en anglais aussi. Alors c'est toujours un peu surprenant pour eux, mais ils sont contents.
Est-ce que vous avez l'impression que le gaélique se perd en Irlande, justement, que c'est plus les vieilles générations qui parlent et que les jeunes un peu moins?
Il y a une renaissance maintenant intérêt langue irlandaise, parce que je pense que c'était quand le premier État libre irlandais a été fondé en 1921, les élites politiques et culturelles avaient cette idée que ça serait un État indépendant de la Grande-Bretagne, aussi pas seulement politiquement, mais aussi linguistiquement. Dans la constitution d'Irlande, la langue irlandaise, gaélique, la première langue d'État. C'est pour ça que tous les documents officiels, toutes les inscriptions publiques doivent être en première place en irlandais et après en anglais. L'irlandais est obligatoire. Les examens en langue irlandaise sont obligatoires pour le baccalauréat, mais la plupart des Irlandais sont pas bilingues. Mais maintenant, les nouvelles générations ont plus d'intérêt pour la langue irlandaise. Alors, c'est cool.
J'ai juste terminé par une dernière question. C'est une question linguistique puisque vous êtes vous-même vous avez étudié alors beaucoup de langues puisque vous parlez le français. D'une certaine manière, vous étudiez aussi le gaélique puisque vous êtes obligé de le chanter. Vous parlez espagnol, évidemment, vous parlez tchèque, vous parlez anglais, peut-être d'autres langues encore que je ne sais pas. En quelle langue rêvez-vous et quel est votre... en tchèque, en espagnol?
Le rêve dépend du pays où je me trouve, parce que quand je suis en République tchèque, je rêve en tchèque. Quand je suis en Espagne, après une semaine, je commence à rêver en espagnol. En Irlande, c'est parfois en anglais, parfois en tchèque. Mais je pense certainement dans la langue du pays où je me trouve. Je pensais jusqu'à il y a 4 mois, je pensais que j'étais complètement bilingue en espagnol et en tchèque, mais j'ai eu un accident. Ce sont des situations très, très curieuses. J'ai eu un accident, j'ai tombé de mon vélo, je me suis cassé mon cou. Et quand j'étais à l'hôpital en attendant les urgences, j'ai commencé à perdre ou oublier les autres langues. La première langue, c'était l'anglais. Je comprenais pas ce que les gens disaient parce que j'étais sous le choc. Après, j'ai reçu un coup de téléphone de mon collègue du travail en espagnol. Je comprenais tout, mais je me rappelais pas des mots espagnols. Et la dernière langue, ça qui est resté vraiment, c'était le tchèque. Alors j'ai pensé, oui, bien sûr, c'est le tchèque. La langue la plus profonde, c'est le tchèque. Amto tatando, mas yo juro un deu, y abranida Moïses,
casi vos. C'est la fin de cette émission culturelle. Cet entretien avec Katka Garcia est une rediffusion du 23 mai 2010. Tout de suite, la suite du programme et la suite du programme sur Radio Prague, c'est le tchèque du bout de la langue. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Larguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Avoir du beurre sur la tête.
Mít máslo na hlavě.
Étaler du miel autour de la bouche.
Mazat med kolem úst.
Sauter sur le bout de gras.
Skočit na špek.
Ou encore remballer ses quelques prunes.
Zbalit svých pár švestek.
Autant d'expressions imagées de la langue tchèque relatives à la nourriture que l'on retrouve dans la chanson intitulée
Poslední večeře.
Le dernier dîner du groupe Xindel X. Pour cette fois, nous vous proposons donc d'étudier quelques-unes de ces expressions. Čích mám sůl a na hlavě máslo, mažu vám med okolo úst, ale nad rozlitým mlíkem nebulím. Všechno, co jsem si navařil, to dneska si s ním dnes poruším půst, a tak vás zvu všechny k tabuli. Dans le premier couplet de la chanson, il est d'abord question d'avoir du ciel dans les yeux.
V očích mám sůl.
Et du beurre sur la tête.
Na hlavě máslo.
D'étaler, de mettre du miel autour de la bouche.
Mažu vám med okolo úst.
Mais aussi littéralement de ne pas chialer pour du lait renversé.
Nad rozlitým mlíkem nebulím.
Intéressons-nous donc pour commencer à la première de ces expressions.
Mít sůl v očích.
On peut l'imaginer, ou certains en ont peut-être déjà fait l'expérience, avoir du sel dans les yeux n'a rien d'agréable. Cela pique même, bref, c'est très dérangeant. Mais en réalité, les Tchèques ne disent pas « avoir du sel dans les yeux ». La véritable expression est plutôt
« mít sůl v očích »,
soit traduit littéralement « être du sel dans les yeux », dans les yeux de quelqu'un. Cependant, le sens reste très proche, à savoir que être le sel dans les yeux de quelqu'un signifie que l'on dérange, que l'on gêne, que la personne en question ne nous apprécie pas ou ne nous apprécie plus, que notre présence ne lui est pas agréable, comme peut être désagréable, incommodante, déplaisante, la présence accidentelle de sel dans les yeux. La deuxième expression que l'on retrouve dans la chanson
Mít na hlavě máslo
est-elle plus courante? Il semble qu'il s'agisse là d'une locution qui existe également en français et dans d'autres langues. Selon certaines sources, avoir du beurre sur la tête proviendrait même du français. Il semble que dans certaines villes en France, au XVe siècle, l'usage voulait que les marchandes de beurre qui cherchaient à voler leurs clients sur les marchés étaient placées sur le pilori. On leur plaçait alors une motte de beurre sur la tête et elles devaient la conserver jusqu'à ce que le beurre fonde au soleil. Il s'agissait ainsi d'une façon de ridiculiser en public une personne malhonnête, un truand. Aujourd'hui, cette expression n'est bien entendu plus utilisée pour les marchands de beurre. N'empêche, le sens initial a été conservé, quelqu'un qui a du beurre sur la tête et quelqu'un qui est compromis dans une affaire douteuse, qui devrait ne pas avoir la conscience tranquille pour ce qu'il a fait ou commis. De certains hommes politiques, par exemple, les Tchèques disent souvent ainsi qu'ils ont du beurre sur la tête.
Čích mám sůl a na hlavě máslo, mažu vám med okolo úst, ale nad rozlitým mlíkem nebulím. Všechno, co jsem si navařil, to dneska si sním, dnes poruším úst, a tak vás zvu všechny k tabuli.
Les Tchèques peuvent donc avoir du beurre sur la tête, mais aussi étaler du miel autour de la bouche.
Mazat med kolem úst.
Notons tout d'abord une différence. Mieux vaut avoir du miel autour de la bouche que du beurre sur la tête. À n'en pas douter, la sensation est beaucoup plus agréable. Il s'agit là d'une évidence, nous direz-vous, mais il n'empêche que cela nous aide déjà à supposer qu'il s'agit là d'une métaphore qui possède sans doute une connotation plus positive. En fait, il s'agit de s'efforcer de plaire à quelqu'un, d'obtenir ses faveurs en le gratifiant par exemple de quelques compliments. En quelque sorte, flatter, amadouer, embobiner quelqu'un pour obtenir ce que l'on désire. Et pour cela, rien de mieux donc que des mots sucrés, doucereux, voire même mielleux et par conséquent parfois exagérés et hypocrites. Enfin, dernière expression du premier couplet de la chanson à nous intéresser pour cette fois.
Nad rozlitým mlíkem nebulím.
Ne pas chialer pour du lait renversé. La véritable locution est
Nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem.
Soit, cela ne sert à rien de pleurer pour du lait renversé. Là encore, la métaphore est aussi claire que belle. Certes, il est bien dommage de renverser du lait, mais maintenant que ce lait est renversé et qu'il est trop tard, cela ne sert plus à rien de pleurer ou de se plaindre. Vous l'aurez compris, les Tchèques utilisent donc cette expression lorsque le mal a déjà été fait. Mais voilà, ce qui est fait est fait, le verre ou la bouteille de lait a été renversé, pleurer ne changera rien à ce fait. Et bien entendu, puisqu'il s'agit d'une métaphore, elle peut être employée dans d'autres situations semblables ou comparables.
Chtěl bych vás utahnout na vařený nudli, ale vím, že mi neskočí ten špek, když vás zkouším opít rohlíkem. I když to občas bylo maso, zkuste dnes na párve rozpustit stek a soudnej den odložit na víkend.
Pas la peine de pleurer donc, et même si le tchèque du bout de la langue arrive déjà à son terme. Nous nous remettrons à l'étude et au décortiquage de cette chanson
Poslední večeře,
le dernier dîner du groupe Xindel X dans notre prochaine émission. En attendant, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj. Thank you.
rencontre littéraire. Elle s'appelait Wilhelmine, elle était duchesse de Sagan et princesse de Courlande, l'une des plus grandes dames de l'Europe de la première moitié du XIXe siècle. La duchesse, qui possédait de grands domaines en Bohême, a vécu entre 1781 et 1839, et sa vie reste une source inappréciable d'informations sur la société, la politique et la diplomatie européenne de son époque. Récemment, les archives de la Bibliothèque britannique de Londres ont livré un de ses secrets, des documents sur un chapitre presque inconnu de sa vie, qu'a été sa liaison passionnée avec le diplomate Frederick James Lamb. Noble, belle, intelligente, ambitieuse et richissime, Wilhelmine de Sagan côtoie les têtes couronnées et les hommes les plus puissants du monde, et malgré tout cela, ou peut-être à cause de tout cela, elle n'arrive pas à trouver l'homme de sa vie. Plusieurs maris et plusieurs amants partageront son existence sans combler cette femme qui est trop exceptionnelle pour se contenter d'amour médiocre. En 1814, elle s'éprend de Lord James Lamb, frère du premier ministre britannique Guillaume Lamb, vicomte Melbourne. Sa passion se traduit par de nombreuses lettres rédigées en anglais et en français qu'elle adresse à son amie. Gevanna Pavlikova, archiviste de la section slave de la Bibliothèque britannique de Londres, découvrira ces lettres parmi les documents de la succession de James Lamb. Elle les publiera dans un livre intitulé « Mon cher amour ». Mon amour coupable.
Tyto dopisy byly v katalogu britské knihovny v Londýně.
Ces lettres ont été dans le catalogue de la Bibliothèque britannique à Londres à partir de 1980, lorsque toute cette succession a été mise à la disposition des lecteurs. J'ai toujours aimé Bojena Nemtsova et dans les années 90, j'ai commencé à m'intéresser aux travaux que lui avait consacrés Helena Sobkova et à la polémique dans les journaux de l'époque sur son ascendance. Tout cela m'a donné l'impulsion pour consulter le catalogue des manuscrits de la Bibliothèque britannique pour voir s'il n'y avait pas de documents d'époque. Et j'ai eu la grande chance de découvrir sous l'entête de la duchesse de Sagan justement ses lettres.
Pod tou hlavičkou ve vodkyně Zahánská jsem našla právě tyto dopisy.
C'est la duchesse Wilhelmine qui a servi de modèle pour le personnage de la princesse éclairée du roman Grand-mère de Božena Němcová, œuvre fondamentale de la littérature tchèque. Tous les Tchèques connaissent aujourd'hui le portrait idéalisé de Wilhelmine de Sagan que Božena Němcová a brossé dans son roman. La duchesse y apparaît sous les traits d'une grande dame un peu nostalgique, qui est sensible aux soucis et aux besoins de ses sujets, et qui sait apprécier la sagesse populaire. Et c'est le nom de la duchesse qui apparaîtra encore au XXe siècle dans le pseudonyme littéraire de Françoise Sagan, car la romancière française l'adoptera en signe de profonde admiration pour la femme qui l'avait portée. Le livre de Gevanna Pavlikova réunit la lettre de Wilhelmine, mais aussi d'importants chapitres sur la vie des deux protagonistes de cette correspondance.
Dopisy jsou psány anglickému diplomatovi Jamesi Lambovi.
Les lettres sont adressées au diplomate anglais James Lamb, membre de l'ambassade de Grande-Bretagne à Vienne lors du congrès de Vienne qui a eu lieu de 1814 à 1815. La duchesse a fait sa connaissance à Prague. C'était probablement dans son salon qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Ils ont continué à se rencontrer plus tard aussi dans le salon de la duchesse à Vienne que James Lamb fréquentait, comme d'ailleurs beaucoup d'autres personnes de l'ambassade de Grande-Bretagne.
On y tam navštěvoval jako mnoho dalších lidí z anglického vyslanectví.
La vie de Wilhelmine de Sagan, ce perpétuel voyage, ne cesse d'éveiller la curiosité des historiens et des biographes, car elle est étroitement liée avec la politique et la diplomatie internationale des premières décennies du XIXe siècle, au moment où l'Europe sortait de l'épreuve des guerres napoléoniennes et s'organisait selon un nouvel ordre établi par le Congrès de Vienne. Parmi les hommes qui jouent un rôle important dans sa vie, il y a Metternich, Talleyrand, le tsar Alexandre, Windisch-Grätz. Elle fascine son entourage, et cette fascination lui survivra. Son amour pour James Lamb se heurte cependant à des obstacles qui se sont révélés insurmontables.
Malheureusement, la duchesse, qui a divorcé deux fois, risquait de se heurter à des réticences au sein de la société aristocratique en Angleterre. Elle s'en rendait compte et elle s'est rendue dans ce pays en 1814 pour tester la réaction des Britanniques à sa personne et pour voir si la vie là-bas serait acceptable pour elle. Le résultat de cette épreuve n'a pas été satisfaisant.
La duchesse désire pourtant épouser James Lamb. Ses lettres démontrent que les deux amants projettent de partir pour vivre dans un autre pays, en Italie ou en Espagne, car Wilhelmine aime le climat doux de la Méditerranée et James aussi.
Elle espérait que James pourrait renoncer à sa carrière diplomatique et que le couple pourrait se retirer pour vivre des revenus de la duchesse à l'écart de la société. Mais cela n'était probablement pas admissible pour James, et je crois que c'était finalement la raison pour laquelle elle a finalement porté son choix sur Charles Stuart, ambassadeur britannique, qui, selon les termes de Wilhelmine, prenait la relation avec elle au sérieux.
La correspondance de Wilhelmine avec James reste unilatérale. Divana Pavlíková regrette que la réponse de James n'ait pas été retrouvée.
Il est évident que James Lamb gardait soigneusement toutes les lettres reçues d'elle. Dans sa succession, il y a non seulement toutes les lettres, mais aussi tous les petits mots qu'elle lui a adressés. On voit que c'est très méthodique et qu'il n'a rien jeté de ce qui était lié à la duchesse de Sagan, et cela malgré le fait qu'il ait été obligé de déménager nombre de fois, car elle a été nommée ambassadeur dans divers pays.
La duchesse a sans doute gardé, elle aussi, la lettre de son ami anglais. Elle faisait probablement partie de sa correspondance privée conservée dans son château de Sagan. Malheureusement, l'ensemble de sa correspondance et toutes les archives de Sagan ont disparu en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'armée russe a occupé cette région allemande qui aujourd'hui fait partie de la Pologne. Il y a deux versions de la disparition des archives de Sagan. Selon la première, les livres et les documents auraient été jetés sous les chenilles des chars russes qui s'embourbaient dans le terrain boueux autour du château. Selon la seconde version, deux officiers des armées des Alliés, l'un dans l'uniforme britannique, l'autre dans l'uniforme français, auraient ordonné le transfert des archives à un endroit inconnu. Il est donc possible que des archives inconnues abritent ces documents disparus et qu'un jour, elles permettront d'ajouter de nouveaux éléments à cette mosaïque passionnée et passionnante qu'est la vie de Wilhelmine de Sagan, femme qui avait tout pour être heureuse, qui n'a jamais cessé de rechercher le bonheur et qui, selon un de ses biographes, a magnifiquement raté sa vie. Je vous ai présenté le livre « Mon cher amour, mon amour coupable » sur un chapitre de la vie amoureuse de la duchesse de Sagan. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à Petr Pokorný, prise de son. Et l'émission de Radio Prague en langue française est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie.
Radio Praga continúa ahora sus emisiones en español.